Je vais surtout laisser parler Claude Lafleur, dont les propos à cette rencontre préparatoire au sommet sur l'alimentation ont été percutants. « Notre agriculture a besoin d'entrepreneurs », disait-il.
Définition simple de l'entrepreneur, c'est celui ou celle capable de déceler une opportunité dans le marché et de mettre en œuvre tout son génie et toutes ses ressources pour combler cette demande. Autrement dit, un entrepreneur, ça entreprend et ça entreprend dans l'espoir de vivre du marché. Vivre du marché, c'est donc être capable de réaliser des transactions jour après jour dans un marché souvent mature et très compétitif.
Claude Lafleur croit en une agriculture plurielle, variée dans ses productions comme dans ses modèles d'opération. Ainsi, l'entrepreneuriat peut aussi être pluriel.
On associe souvent le mot entrepreneur à l'individu solitaire, dans son garage, en train d'inventer le bidule du siècle, mais l'entrepreneur collectif existe aussi. Les coopératives, les plans conjoints et même l'État peuvent revendiquer ce titre. Le gouvernement de René Lévesque, avec l'improbable Jean Garon à sa tête, fut un entrepreneur lumineux en agriculture.
Selon l'agroéconomiste, il faut briser les cadres établis qui servent depuis trop longtemps de modèle.
Première chose, la plus importante, c'est quoi la proposition d'affaires? Qu'est-ce qu'on offre à nos clients? C'est la question la plus distrayante, la plus importante, la plus difficile à répondre, et c'est la vision de l'entreprise, c'est la vision du secteur, c'est la vision d'un ministère, en même temps que sa raison d'être. L'exemple est un peu boiteux, peut-être, mais il illustre toute la puissance d'une bonne proposition d'affaires, et je vais prendre Uber versus le taxi traditionnel. Comment une application innovatrice, une simple plateforme, a réussi à s'introduire dans un marché compétitif complètement saturé, avec peu de valeur ajoutée. Avec Uber, on appelle le taxi par le téléphone, on constate le nombre de minutes d'attente, on voit cheminer le taxi sur Google Maps, on embarque dans le taxi généralement propre, notre nom, notre destination, tout est déjà dans l'ordinateur de la voiture. On n'est pas obligé de parler au chauffeur, on a même coché une petite coche à cet effet-là. Le paiement, le pouvoir, tout est inclus sur la carte de crédit. Et on peut faire l'évaluation du service immédiatement après, et on ne se gêne pas si la course nous a déplu. Uber, au départ, indépendamment de son acceptabilité sociale, est une proposition d'affaires qui offrait une rupture avec tout ce qui se faisait. De même, lorsqu'on pense à une politique bioalimentaire, à moyen terme, on doit penser à une proposition de valeur audacieuse. Nos fermes, notre secteur agricole, nos filières, nos bateaux de pêche, qu'est-ce qu'ils offrent aux clients, aussi bien chez nous, nationaux qu'internationaux? Qu'est-ce qui est unique chez nous? Une deuxième composante du modèle d'affaires, ce sont les partenaires clés. Le réseau auquel l'entrepreneur a accès, essentiellement pour l'aider à livrer sa proposition d'affaires et souvent pour réduire ou gérer ses risques. La question qui tue, avec qui je m'associe? Avec mon fournisseur, avec un intégrateur, avec un club conseil, avec des financiers, avec Pangea, avec ma coopérative, avec Équitaire. L'entrepreneur indépendant est un mythe. Sans partenaire, l'entreprise dans une économie moderne n'est pas viable. De bons partenaires offrent des avantages comparés. On ne peut pas être bon dans tout. D'autres peuvent faire mieux, plus vite, à moindre coût. On se spécialise et on s'allie aux autres pour le partage des connaissances, des meilleures pratiques et des actifs parfois aussi, le tout enveloppé dans une formule un peu cliché de gagnant-gagnant. Tout entrepreneur aussi doit développer une obsession des coûts de production. C'est une question de survie et de résilience. Les défis sont nombreux chez nous en agriculture. Les bâtisses et l'équipement sont plus chers à cause de l'hiver canadien, québécois, sont plus chers aussi à cause du dollar canadien. La machinerie, entre l'extravagance et la nécessité, la marge est mince au Québec. Le coût de l'alimentation animale, qui, à cause de la structure du marché, est un enjeu pour le Québec. La faible productivité en raison d'une combinaison masse critique, technologie, innovation-recherche qui est moins avantageuse. Et l'accès à une main-d'œuvre vaillante et compétente reste aussi une préoccupation constante. L'entrepreneur doit composer avec plusieurs leviers lorsqu'il conçoit son modèle d'affaires. il faut retenir un certain nombre de constats pour l'agriculture. Valoriser le modèle entrepreneurial comme on est en train de le faire, c'est nécessairement accepter la multiplication, l'explosion des nouveaux modèles, c'est aussi embrasser l'innovation. C'est la nature même d'une classe entrepreneuriale que d'aller au-delà des cadres établis. Diversité dans la mise en marché, diversité dans la taille, diversité dans les montages financiers, diversité dans la structure et la propriété. Les fermes familiales vont probablement rester dominantes au Québec dans son mode de propriété, mais peut-être pas dans son mode de vie agricole. Intégration est solidement implantée au Québec et cela ne changera pas. Davantage de locations, sans doute, davantage de maternité collective, plus de modèles Pangea, quelques André Desmarais, quelques serres Lufa, plus de regroupements de producteurs de serres, plus d'organisations comme CAPI, plus d'agriculture urbaine. Bref, l'entrepreneuriat va de pair avec l'implantation progressive et inéluctable d'une agriculture plurielle, comme l'avait déjà anticipé le rapport Pronovo il y a 10 ans.
Et selon Claude Lafleur, tout doit être réévalué, adapté au nouveau contexte et à l'ère des changements rapides et continuels dans laquelle nous sommes entrés.
Chez les consommateurs, le prix joue le rôle le plus important. On l'a vu dans sondage après sondage. 90 à 95 % de notre ferme, de notre agriculture, est en situation de vive concurrence, incluant celles qui sont sous gestion de l'offre, où de plus en plus la dimension de compétition internationale se retrouve dans nos prix. Elle est donc condamnée à réduire ses coûts de production. La masse critique, la productivité et l'accès aux technologies sont des incontournables à l'agriculture et en pêche. Sans surprise, le nombre de grandes fermes, 500 000 $ et plus, a beaucoup augmenté depuis 10 ans, pas loin de 55 %. On en dénombre 5 000 sur les 29 000 que compte le Québec, soit 17 % seulement, mais qui font 75 % du chiffre d'affaires. 5 000 fermes au Québec qui génèrent 75 % de toutes les recettes agricoles. Si vous voulez avoir une idée de ce que sera l'agriculture du Québec dans 10 ans, ce sont ces fermes-là qu'il faut surveiller. Parallèlement à cette tendance forte, il y a aussi l'extraordinaire vitalité d'une agriculture qui mise haut et fort sur le marché à valeur ajoutée, la qualité, le goût, la proximité, la traçabilité, l'absence de produits de synthèse, la santé, le bonheur dans les prix. Ici, ce n'est pas tant le prix qui échauffe la demande, mais la différenciation. Cette agriculture connaît une forte croissance. Depuis 2 ans, c'est même l'explosion. Le cégep de Victoriaville est en pleine expansion. Les cours les plus populaires aux ITA et à l'Université Laval sont les cours qui portent sur le bio. Une ferme sur 6 vend directement aux consommateurs et on note l'implication de plusieurs jeunes allumés, des néo-ruraux qui s'installent en agriculture. Cette agriculture de proximité, on la retrouve beaucoup, mais pas exclusivement dans le groupe des petites fermes, aux côtés des semi-retraités, des fermes de loisirs, des fermes à temps partiel. Ce qui n'a pas empêché les fermes de moins de 50 000 $ de recettes monétaires par année de légèrement diminuer au cours des 10 dernières années de 7,7 %. Leur contribution relative aux recettes monétaires est aussi en baisse. C'est 11 000 fermes de 50 000 $ et moins, 11 000, dépendent beaucoup du revenu extérieur et génèrent à peine 5 % de l'ensemble des recettes agricoles du Québec. Ce groupe est aussi vulnérable à une éventuelle saturation des marchés de niche et à leur faible rentabilité. Quant à la ferme de taille moyenne, entre 50 000 et 100 000, elle est coincée entre les deux, trop petite, trop grosse, avec des agriculteurs vieillissants. Les conséquences sur la structure de production sont cristallines. Cette fameuse ferme moyenne, traditionnelle, familiale, dont tout le monde se réclame, quelques 12 000 fermes en tout et partout, est en chute libre. Les chiffres de recensement nous indiquent aussi que nous sommes probablement arrivés à la fin d'un cycle en agriculture. Car la capacité de transmettre la ferme d'une génération à l'autre est de plus en plus difficile. Les familles n'ont tout simplement plus les moyens d'acheter des actifs de 3 à 5 millions sans endettement massif ou sans don substantiel des cédants. Les poches des acquéreurs ne sont tout simplement pas assez profondes, en mode traditionnel. On parle beaucoup de ceux qui souhaitent acheter des terres, pas assez de ceux qui veulent les vendre. C'est un sujet un peu tabou. Il y en a beaucoup qui sont heureux de passer à la caisse actuellement. Le phénomène de l'accaparement des terres au Québec n'est pas nouveau. Il prend d'autres formes cependant. Paradoxalement, la majorité des producteurs d'aujourd'hui sont ceux qui se sont accaparés des terres de leurs 12 ou 15 voisins qui peuplaient et qui exploitaient une ferme dans leur rang il y a 30 ou 40 ans. La vraie question ici n'est pas tant la venue de capitaux extérieurs à l'agriculture. Ce phénomène est incontournable et de fait, nous en aurons sans doute besoin s'il faut établir de nouvelles fermes, renouveler le parc de bâtiments ou moderniser la flotte de machinerie. La vraie question donc est qui possède ces terres et comment cette propriété est mise au service de l'agriculture et non pas déviée à des fins spéculatives ou de développement urbain et industriel. On parle beaucoup de politique gouvernementale pour soutenir l'agriculture et les pêches. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut donner de l'élan à l'agriculture, il y a aussi des acteurs privés et institutionnels. En premier lieu, évidemment, les producteurs eux-mêmes, qui par leur planification familiale, peuvent soutenir la relève. Les coopératives, par leur politique d'inclusion et de partage de ristournes. Les institutions, par une bureaucratie moins tatillonne et une réglementation beaucoup mieux équilibrée. Les plans conjoints, par une gestion plus collective et plus généreuse peut-être de leur contingentement. À cet effet, la politique des producteurs d'œufs d'incubation et d'œufs de consommation, de mettre du quota à la disposition de jeunes producteurs, est un exemple très inspirant. Il me semble important aujourd'hui d'ouvrir la discussion, les discussions avec ceux et celles qui demandent un peu d'espace pour s'établir en respect des valeurs fondatrices où les intérêts collectifs priment sur les intérêts individuels.
Ici Lionel Levac. Dans le prochain blog, de nouveau Claude Lafleur, cette fois plus particulièrement sur les contextes de marché. Au revoir.